Bonjour. Merci au groupe de louanges pour ce moment qui nous ont permis de partager ensemble. Et vous allez le voir, c'est vrai que le sujet du Saint-Esprit est une fraîche rosée que nous allons pouvoir partager. Après avoir abordé les sujets de Dieu et de Jésus-Christ il y a quelques mois, c'est vrai que les anciens vous proposent maintenant deux messages sur le sujet du Saint-Esprit. Nous avons déjà parlé du Saint-Esprit puisqu'il est la troisième personne de la Trinité. Il est donc Dieu lui-même, au même titre que Jésus-Christ est le Fils et au même titre que Dieu le Père est le Père. C'est vrai que les trois personnes de la Trinité sont intimement unies, à tel point qu'ils ne font qu'un. J'avais du reste intitulé la présentation sur la Trinité « Dieu trois en un ». Trois en un. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont si unis, s'ils sont aussi de même nature, avec les mêmes attributs, ils sont néanmoins bien distincts entre eux. Et bien entendu, ils sont distincts de la création. Jésus-Christ est celui qui nous fait connaître Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. En nous arrêtant sur le Saint-Esprit, nous sommes émerveillés, émerveillés de voir que son œuvre est dans la continuité parfaite de l'œuvre de Jésus-Christ. Non seulement Jésus et le Saint-Esprit sont au même niveau dans la Trinité, mais étant de même nature et de même essence, ce que Jésus-Christ a accompli nous est rendu maintenant accessible par le Saint-Esprit. Rappelons-nous donc que l'œuvre du Saint-Esprit est d'une certaine façon le moyen prévu par Dieu pour nous révéler son plan et nous donner ainsi accès à l'œuvre de Jésus-Christ. Rappelons-nous aussi que ce salut est la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce que Jésus a accompli, le Saint-Esprit nous le révèle et nous permet de nous l'approprier. Et maintenant, qui est le Saint-Esprit? Tout d'abord, les noms du Saint-Esprit. Il est appelé l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. Mais il est aussi l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de foi, l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, de grâce, de gloire. Quelle richesse de voir tous ces noms qui nous montrent les qualités et les rôles du Saint-Esprit pour nous. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Avons-nous expérimenté ces trois qualités que Dieu veut nous donner par son esprit? Remarquez au passage que ces trois qualités mises ensemble sont d'une puissance extraordinaire. La force, l'amour et la sagesse sont chacun pris à part tout un programme. Mais pour vivre les trois en même temps, il nous faut vraiment l'aide du Saint-Esprit, l'aide de l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit est aussi une personne. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Il n'a rien à voir avec une simple influence ou une puissance divine. Il est nommé. Nous venons de voir une palette de noms qui lui sont attribués, mais en plus, Jésus le désigne comme une personne qui accomplit des actes bien précis. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit est doué de pensée, de connaissance, de langage, de volonté aussi. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. N'est-ce pas rassurant de savoir que toutes ces qualités de l'Esprit de Dieu sont utilisées pour nous venir en aide, pour nous guider, pour nous faire croître dans la foi et combler nos lacunes, même celles que nous ignorons. Alors faisons-lui pleinement confiance. Mais attention. Attention parce que on peut aussi le traiter comme une personne, le Saint-Esprit, c'est-à-dire lui mentir, le tenter, lui résister, l'attrister, l'outrager. Et je vous lis juste un verset. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lui faire confiance, c'est aussi soigner notre relation avec lui. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il ne nous force pas, mais il est sensible. À nous de lui donner du temps, par exemple. Eh bien oui, comment est-ce qu'il peut révéler la parole de Dieu à quelqu'un qui n'ouvrirait jamais cette parole ? Prenons le temps d'ouvrir la Bible. Ou bien, comment peut-il faire connaître la pensée de Dieu à quelqu'un qui ne lui parle jamais, qui ne le prie jamais ? Prenons du temps pour le prier, pour être en communion avec lui. D'autre part, et c'est un petit peu plus positif, heureusement, il enseigne, il témoigne, il convainc, il conduit, il entend, il parle, il annonce. Écoutons ce que Jésus dit à ses disciples. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce qui est formidable, c'est que nous pouvons nous adresser à lui, comme à une personne, par la prière. Il est pleinement Dieu, mais en tant que personne, il est pleinement disponible, puisqu'une de ses fonctions est de nous faire connaître la pensée de Dieu. Dans cette relation, le Saint-Esprit ne s'impose pas. C'est à nous qu'il incombe de lui laisser toute la place, c'est-à-dire de ne pas mettre dans notre vie des priorités qui l'empêchent d'agir, afin de pouvoir vivre ce que l'apôtre Paul dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est pas forcément évident à comprendre. Mais en fait, ça signifie tout simplement que le Saint-Esprit est au-dessus de la loi. Dieu est saint, son Esprit est saint, et par son Esprit, il nous conduit dans ce qui est juste. Cela ne veut cependant pas dire que l'on peut faire tout ou n'importe quoi. Le Saint-Esprit maintenant est de nature divine. Nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu. En effet, le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Fils. Ces attributs qui sont l'existence de toute éternité, l'omniprésence, il est partout, l'omniscience, il connaît tout, l'omnipotence, il peut tout, l'immuabilité, il ne change pas. Voyons maintenant quels sont les rôles du Saint-Esprit. Tout d'abord, son rôle dans la création et la préservation, c'est-à-dire dans le maintien du monde tel que nous le connaissons. C'est vrai que les trois personnes de Dieu étant présentes dans la création, le Saint-Esprit y est donc associé. Le Saint-Esprit a fait partie de cet acte créateur de Dieu. Et nous lisons dans le premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et le mot hébreu qui est traduit par Dieu, c'est Elohim. Elohim est un pluriel quant à sa forme, mais un singulier quant à son sens. Dieu trois en un. Il est intéressant de noter qu'au verset 2, le deuxième verset de la Bible, il n'est fait mention que d'une seule personne de la Trinité, et il s'agit de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais le Saint-Esprit est aussi présent pour maintenir le monde dans un équilibre stable. Nous voyons cela au psaume 104, le verset 30, qui nous dit, en parlant des animaux, « Tu envoies ton esprit, ils sont créés. » et tu renouvelles la face de la terre. Par son souffle, l'Esprit de Dieu renouvelle la création en permettant à la vie de se perpétuer. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit dans la rédemption. Le Saint-Esprit a aussi un rôle précis dans la rédemption. Et nous lisons un verset qui nous dit ce que Jésus a répondu à Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est donc par le ministère de l'Esprit qu'une personne naît de nouveau, parce que c'est l'Esprit qui fait vivre. Paul nous parle aussi du renouvellement du Saint-Esprit. On peut aussi dire que le salut et la rédemption nous sont acquis par l'œuvre de Jésus-Christ, mais ils nous sont communiqués, transmis, rendus accessibles par l'action du Saint-Esprit. Et cela correspond bien à ce que Jésus disait à ses disciples. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On peut donc dire que le Saint-Esprit est le moyen de communication du salut. Du salut, mais aussi de tout ce que nous avons besoin pour notre marche avec Dieu. C'est lui qui convainc de péché. C'est aussi lui qui révèle l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. Et sans ce travail du Saint-Esprit en nous, nous n'aurions pas accès à ce salut. Tout simplement parce que par nature, nous sommes tous éloignés de Dieu. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit dans la révélation, c'est-à-dire dans la Bible. Le Saint-Esprit est à la fois l'auteur et l'interprète des Écritures. Alors nous voyons déjà que les apôtres, à plusieurs reprises, nous montrent qu'ils attribuent l'inspiration des Écritures au Saint-Esprit. Par exemple, Pierre nous dit « Il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance. » C'est donc le Saint-Esprit qui a poussé ou inspiré des hommes pour rédiger les Écritures. Il en est donc l'auteur. Mais il en est aussi l'interprète. Nous avons en effet, chacun, besoin du Saint-Esprit pour nous en révéler le sens. Paul écrit que Dieu nous a donné l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses qui viennent de Dieu par sa grâce. Il y a donc une double action du Saint-Esprit quant à notre accès aux Écritures. D'une part, il est celui qui a inspiré la Bible et d'autre part, il est celui par qui elle nous est révélée. Cette révélation nous permet de comprendre, de recevoir et de s'approprier la parole de Dieu. Laissons-nous donc imprégner par la parole de Dieu que l'Esprit désire nous révéler, qu'elle nous parle chaque jour et qu'elle nous conduise dans chaque étape de notre vie. On ne le réalise pas toujours, mais le fait que le Saint-Esprit soit présent au même titre que les deux autres personnes de Dieu dans la création, dans la rédemption et dans la révélation, nous montre qu'ils sont tous les trois au même niveau. Dieu le Saint-Esprit n'est pas moins important que Dieu le Père ou Dieu le Fils. On a souvent l'habitude de dire de laisser en nous toute la place à l'Esprit Saint. Mais avons-nous bien compris ce que cela veut dire pratiquement, concrètement dans notre vie? Comment est-ce qu'on fait pour lui laisser toute la place? Sommes-nous conscients que parfois nous pouvons attrister le Saint-Esprit? Tout simplement parce que dans notre vie, nous pouvons donner une importance exagérée à quelque chose de secondaire, quelque chose qui, prenant la place dans notre vie, empêcherait au Saint-Esprit de prendre cette place. Est-ce que nous croyons vraiment que pour nous, le Saint-Esprit veut nous donner un esprit de force, d'amour, de sagesse? Laissons-le nous faire découvrir concrètement dans notre vie tout ce qu'implique une libre action du Saint-Esprit. Voilà, et maintenant je laisse la place à Pierre qui prend le relais pour la deuxième partie.
Ah, le Saint-Esprit. Non mais c'est vrai, c'est la personne de Dieu qui est la plus proche de nous et c'est la personne de Dieu finalement qui est la plus mystérieuse, qui nous pose peut-être plus d'interrogations parce que voilà, comment elle agit? Comment elle peut intervenir dans nos vies, nous qui sommes que des simples hommes, quoi. Et c'est un peu la partie que je vais aborder, c'est comment quel est son rôle auprès des hommes? Auprès des hommes et aussi, bien sûr, auprès des croyants. Et c'est vrai, on l'a vu avec Jésus. Lui, Jésus s'est appliqué à accomplir la volonté de son Père. Et il a accompli la volonté de son Père en accomplissant en tout point de vue la loi. Hein. Et il s'est aussi, lui, appliqué à nous faire connaître le Père en prenant la forme d'un homme, tout en manifestant tous les caractères divins. Et bien sûr, en nous rachetant par sa mort, Christ nous a purifiés de tous nos péchés. Et nous l'avons vu aussi, maintenant, sa place, elle est désormais sur le trône, à la droite de son Père, car lui, son royaume n'est pas terrestre. Plus tard, devant ses disciples, lors de l'ascension, Jésus est élevé dans le ciel, et les anges s'interrogent sur l'attitude des disciples qui sont arrêtés à regarder le ciel. Alors, bien informés, forcément, hein, ces anges annoncent le retour du Seigneur. Il reviendra comme il est parti. Et donc, invite les disciples à ne plus être des contemplatifs, mais être vraiment des témoins vivants. Et puis, 10 jours après, donc, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur eux, et à partir de là, toutes les paroles de Jésus concernant le Saint-Esprit prennent une autre dimension et tout devient différent. C'est le temps où le ministère du Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quelles sont ces paroles? Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et puis, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et moi, il est toujours été surprenant, moi, de rappeler ces paroles. Il vous est avantageux que je m'en aille. On pourrait penser que la présence physique de Jésus est meilleure, finalement, à nos côtés, est meilleure que celle du Saint-Esprit. Et à nos côtés, c'est un peu la même chose. Mais ça, justement, c'est faux. Un peu avant, au verset 12 du chapitre 14, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Mais ça peut paraître encore plus gros. Faire, nous, des œuvres plus grandes que le Seigneur a fait? Donc après le temps du ministère terrestre de Jésus, c'est le temps du ministère du Saint-Esprit. Dès la Pentecôte, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et il descend dans chacun des esprits des croyants, en faisant de chacun de leur corps son temple. Avons-nous conscience de cela? Nous sommes, croyants, un seul esprit avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 17. Donc à partir de là, le Seigneur ne pouvait pas faire autre chose que partir, que laisser la place à Saint-Esprit qui pouvait ainsi se démultiplier dans chacun des cœurs des croyants et faire ainsi ces grandes choses. On y reviendra tout à l'heure. À partir de là, donc le Saint-Esprit assume pleinement son rôle, je dirais entre guillemets seul, parce que bien sûr, on l'a vu, c'est Dieu. Et comme Dieu l'avait promis, le Saint-Esprit devient indissociable des croyants. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui arrive à prendre de façon parfaite l'empreinte de notre vide en nous, de ce vide spirituel qu'il y a en chaque homme. Parce que chaque homme, n'oublions pas, est créé à l'image de Dieu. Tous les hommes sont donc prédestinés à recevoir le Saint-Esprit. Et là, il est toujours intéressant de revenir au début de la Genèse pour voir quel était l'ordre initial. Quel était le plan dans la création de Dieu, car c'est justement ce que notre Dieu veut retrouver en nous réconciliant, en réconciliant avec lui toutes ses créatures faites à son image. Et concernant le Saint-Esprit, il est surprenant de voir que Dieu a insufflé son souffle, ou son esprit, dans d'autres versions, avec un grand E, d'autres versions disent un petit E, souffle son esprit dans les narines de l'homme. C'est dans Genèse 2, verset 7. Hein. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors c'est vrai, on pourrait interpréter ce verset comme, de façon très simple, comme étant finalement ce souffle, le simple souffle pour la respiration vitale de notre corps. Que Dieu donc souffla dans les narines d'Adam pour qu'il vive. Mais ça ne serait pas faire cas de la reprise de ce passage, de ce passage par Paul. Et c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, aussi spirituelle. Et le dernier Adam, donc ça c'est Jésus, est devenu lui un esprit vivifiant. Il y a bien là donc cette distinction entre ce qui est du ressort de l'esprit et ce qui est du ressort du corps naturel. Et donc Dieu, tout naturellement, envoie son esprit de vie, dans Adam, et ainsi cet esprit peut le guider, peut l'enseigner, peut le consoler, et bien sûr lui permet d'avoir une relation directe avec Dieu. Et nous voyons que cette présence divine, spirituelle, ne l'épargne pas de la chute. Et que la dualité, esprit et chair, est bien là effective. Au fil du temps, on voit que les hommes négligent cette présence divine et préfèrent établir une relation malsaine avec les anges. Il nous est dit même avec les fils de Dieu. Ça, c'est dans Genèse 6, verset 3. Et donc, à partir de là, Dieu est outré de cette situation et met le doigt sur les deux raisons qui ont entraîné cette situation. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours. D'autres versions disent, ne contestera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc cette dimension spirituelle, sans limite, que Dieu avait insufflée dans l'esprit des hommes, cela conjugué avec la longueur de leur vie, ont fait que les hommes ont pris l'habitude, ont eu le temps de mettre en place des pratiques douteuses et qui ont entraîné des conséquences spirituelles et naturelles que finalement ils n'ont plus maîtrisées. Et j'ai souligné ce mot « toujours », « toujours », car il induit que le Saint-Esprit était en permanence dans l'homme, nous dit la parole. Dieu donc, en prenant conscience de cette situation de désordre, intervient sur les deux choses qui concernent pour l'une l'esprit et pour l'autre la chair. Il revient donc sur l'ordre qui était initialement établi et il bouleverse. 120 ans, pas plus, et puis il enlève l'esprit. Il enlève sa personne de l'homme. Et à partir de là, l'esprit de Dieu ne se manifeste plus que de façon ponctuelle. En fonction du degré de sanctification des différents hommes de Dieu. Alors, il y a plein d'exemples, hein. Joseph, Moïse, Josué, Balaam, Gédéon, vous lisez les juges, vous verrez le nombre de versets qu'il y a, l'esprit le saisit, l'esprit se retira, enfin, amusez-vous à ça, vous allez voir, vous allez être scotché. Samuel, Saül, qui a eu l'esprit retiré. Élie, Élisée, bien d'autres, qui au gré de leur fidélité, ou de leur obéissance à Dieu, puis à la loi, ont vu l'Esprit de Dieu les saisir ou bien se retirer d'eux. Alors après une présence permanente et inconditionnelle dans les hommes, puis après donc une présence conditionnelle au péché, la volonté de Dieu est de répandre à nouveau son esprit sur toute chair et de façon permanente. C'est la prophétie de Joël 2, verset 28. Et ça, à une différence près, c'est que le Saint-Esprit ne saisit finalement que ceux qui ont cru au salut de Christ. Et ça, c'est donc une nouvelle alliance qui est nécessaire. Ce n'est plus l'alliance de la lettre, mais celle de l'Esprit, nous dit 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des croyants qui fait suite à l'œuvre de Christ à la croix. Cette alliance gravée sur nos cœurs de chair, comme Raymond nous l'a lu le verset. Et donc, cette œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui fait suite à l'œuvre de la croix, et ainsi, toutes deux participent à notre salut. L'œuvre de Christ est accomplie parfaitement pour nous purifier de tous nos péchés, et désormais, l'œuvre du Saint-Esprit a pris le relais pour parachever cette œuvre de Christ, et en nous amenant à son tour à la perfection. Et donc, ces deux œuvres sont des grâces de notre Dieu. En croyant à la rémission de nos péchés à la croix, nous acceptons de donner notre vie à Christ. Et nous acceptons aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit et par conséquent qu'il fait librement son œuvre en nous pour faire de chacun de nous des petits Christ. Comme Dieu s'est incarné en envoyant son Fils pour accomplir son œuvre, le Saint-Esprit vient s'incarner en chaque enfant de Dieu pour accomplir la sienne. Et si je continue le parallèle, comme Jésus a glorifié Dieu sur la terre, c'est Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Nous aussi, le Saint-Esprit nous aide à glorifier Dieu dans notre corps. 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc le Saint-Esprit est présent de façon permanente dans le cœur des croyants, et il cohabite en chacun d'eux, avec aussi ce qu'il y a de plus sombre dans leur nature, le péché. Alors nous pouvons avoir accepté le salut et continuer à vivre en négligeant ce si grand salut. C'est-à-dire, comme Philippe l'a rappelé, en attristant le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. C'est-à-dire en privilégiant finalement la satisfaction de notre chair, puisque Philippe l'a lu aussi, il y a des désirs contraires entre notre chair et l'esprit. Et justement, une des premières actions du Saint-Esprit, après nous avoir révélé le message de l'Évangile, c'est de contester dans le cœur du croyant. Il conteste. Il y a peut-être des petits soupirs. On l'a vu, ce Saint-Esprit contestait après la création, dans les hommes. Il conteste afin d'affaiblir notre nature pécheresse par son œuvre de sanctification en nous. Deux passages, 2 Thessaloniciens 2, verset 13, 1 Pierre 1, 2 nous précise ces choses-là. Alors, il est donc intéressant maintenant de voir comment le Saint-Esprit peut intervenir en nous pour nous transformer. Et ça, comme pour notre salut, c'est notre foi qui est primordiale. Et le Saint-Esprit ne se manifestera pas plus parce que si on fait des œuvres, si on fait un culte volontaire, si on se force à faire les choses pour lui. Le Saint-Esprit est une grâce. Tite 3, versets 4 et 6. Il est déjà là et nous avons à lui faire confiance pour qu'il nous transforme et pour qu'il nous transforme pour que nous vivions à la gloire de Dieu. Galates 3, verset 2. Galates 3, verset 2, c'est par là ou pas? J'ai peut-être oublié de le mettre. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fit-il donc par des œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Éphésiens 3, verset 16. afin d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il est donc un don gratuit. Dieu accorde le Saint-Esprit. Tu peux mettre la page d'après ? Voilà. Dieu accorde le Saint-Esprit et le croyant le reçoit. Et on le reçoit comme étant les prémices ou les arts de notre héritage futur. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous rend la vie. Il rend la vie à notre esprit. L'esprit vivifie, nous dit 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous régénère pour faire de nous une nouvelle création. Il nous qualifie afin que nous portions son fruit. Les fruits de l'esprit de Galates 5, verset 22. Et bien sûr, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8, verset 26, car notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à notre chair quand on voit ces passages? Mais finalement, c'est le but du Saint-Esprit, de nous mettre à l'œuvre, en activant notre bonne volonté et en nous libérant de toute autre intérêt non conforme à Dieu. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 7. Alors quand on parle du Saint-Esprit, on a toujours à l'esprit, en vue des grandes choses. Ces grandes choses que pourtant Jésus nous a promis. Voir les manifestations puissantes du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est bien beau les paroles. Mais où est la puissance? Où sont les œuvres plus grandes que notre Seigneur a promis? Néanmoins, attention toujours à notre vision humaine, vision de notre chair. Regardons notre cœur. Regardons d'où nous venons. Et non pas forcément aux apparences. Ne sommes finalement, nous, pas tous des chrétiens, des témoins sur la terre, témoins du ministère glorieux du Saint-Esprit? Combien d'aveugles, combien de sourds, combien de boiteux, de malades, de paralytiques, tous initialement fermés dans leur cœur au message de l'Évangile, le Saint-Esprit a consolé de façon éternelle. Ce que Jésus ne pouvait pas faire en démultipliant sa présence dans le corps des croyants, c'était pas son plan, il n'avait pas cette possibilité, Jésus, de faire ça. C'est le Saint-Esprit. Jésus devait partir pour que le Saint-Esprit vienne et fasse cette œuvre-là dans les cœurs. Et je remets ce verset, je relis ce verset de Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, en attendant, soyons donc fidèles dans les petites choses. Et une petite chose, me semble-t-il, est de marcher par l'Esprit. N'oublions pas, il est en nous le Saint-Esprit. Il est tout proche de nous. Alors, on le ressent par des soupirs. C'est peut-être la chose minimum, le ressenti minimum qu'on peut avoir de sa personne. Mais néanmoins, ressentons cette présence en nous. Ressentons quand il conteste les points de vue de notre nature humaine pour la soumettre à sa volonté. On croit toujours que notre confiance, c'est elle qui nous interpelle. Mais le Saint-Esprit, lui, agit peut-être par notre conscience, mais il agit aussi par son esprit, par notre esprit renouvelé. Et ainsi, habitué à sentir son action bénie en nous, le Saint-Esprit pourra nous en confier de plus grandes choses. Alors John et Jean-Paul, la prochaine fois, aborderont le ministère du Saint-Esprit dans l'Église, aborderont les dons spirituels, et vraiment, en attendant, soyons sensibles à l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies pour nous amener à la perfection. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Mais souvenons-nous que rien n'est impossible à Dieu.
Les annonces de la semaine, tout d'abord le programme. Le programme est déjà bien rempli pour la semaine. Lundi, on commence fort, trois activités d'un coup, là, paf. Lundi, à 14h, Femme Club. À 19h30, Commission Travaux. Et puis, à 19h30 aussi, le Conseil. Merci de prier pour ces trois activités. Jeudi, études bibliques à 20h30 ici. Venez nombreux, c'est toujours très intéressant les études bibliques. C'est aussi un moyen d'être attentif à ce que veut nous dire Dieu et de lui laisser toute la place. Samedi matin, travaux. Donc il y en a pour tous. Déjà des travaux à l'extérieur, entretien, des travaux aussi à l'intérieur, le ménage, les nettoyages de printemps, etc. Il y en a pour tous, hommes, femmes, jeunes, adultes, moins jeunes. Par contre, c'est bien si vous pouvez vous annoncer. Un petit coup de téléphone, vous me le dites à la sortie. Ceux qui peuvent venir, dites-le nous, ça permet de s'organiser un minimum, de voir le nombre de pinceaux, le nombre de rouleaux de papier de verre qu'il faut prévoir, etc. On organise quand même pas tout à fait de la même façon si on se retrouve à 5, 6 ou si on est une quinzaine. Samedi, le groupe de jeunes à 20h30. Dimanche, le culte. Concernant les activités du dimanche, vous avez remarqué ce matin, il y avait le café-thé au sous-sol. Alors, le prochain est prévu dans 2 semaines. Mais imaginez un petit peu, il n'y a personne pour l'organiser. Alors, Pierre-Alain et Valérie cherchent des personnes pour partager cette activité, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui supportent ce travail, cette préparation. Donc, si vous vous sentez appelé pour ça, allez les trouver. Donc, il y a besoin déjà dans 15 jours. Et puis, pour la suite aussi, ils ont ce désir de partager ce travail, peut-être une fois sur deux, ou à voir avec eux, de façon à ce que ce travail, qui est, je crois, apprécié par beaucoup de personnes, puisse continuer sur la durée. N'oubliez pas les inscriptions pour le club d'enfants d'été, au fond de la salle, le tableau, il est grand comme ça. Il y a encore plein de places libres. Oui. Voilà, il y a aussi les flyers pour les enfants, donc les flyers qui sont à distribuer. Prenez-les, distribuez-les largement, n'hésitez pas. Voilà, j'ai terminé avec les annonces. Anne-Laure, oui.
Pour le groupe de jeunes la semaine prochaine, j'ai une petite annonce à vous faire. Chère famille des jeunes qui sont groupe de jeunes, c'est avec un immense honneur et un grand plaisir que nous vous invitons à partager des moments inédits et inoubliables en compagnie des jeunes, du jamais vu auparavant. Vos enfants, ou frères, sœurs, etc., vous autorisent à découvrir ce cercle si fermé et mystérieux qu'est le groupe de jeunes. À cette occasion, nous serons heureux de vous faire goûter nos meilleures spécialités, les gâteaux de nos mamans. Recette transmise de génération en génération, hein, attention. Donc rendez-vous samedi prochain le 9 juin à 20h pour partager le dessert avec nous. Devant notre QG, le local du groupe de jeunes, ou communément appelé le sous-sol de l'église. Le programme est certes surprise, mais point de panique, vous partirez le cœur léger et le ventre lourd. De bonnes pâtisseries. Voilà, et une petite participation de votre part. Il faudra que vous répondiez à cette ultime question. Quelles sont, selon vous, les activités du samedi soir au groupe de jeunes ? Voilà, donc on va vous donner, chaque jeune va donner à sa famille les petits flyers avec l'invitation. Donc toutes les familles des jeunes qui sont groupe de jeunes sont invitées à venir partager cette petite soirée samedi prochain avec nous, ça va être sympa.
Je vous invite maintenant à vous lever et je vais vous lire encore 2 versets dans 2 Corinthiens 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que ces paroles vous accompagnent toute cette semaine. Oui, Charlie. Ah oui, juste. Oui, alors j'ai complètement oublié ça, désolé. Dimanche après-midi, de 14h à 17h environ, effectivement, deux rencontres de membres avec les sujets concernant l'évolution de la commission de travaux par rapport à nos locaux et le projet d'organisation des ministères et des activités de l'Église, donc qui vous sera présenté. Il y aura une garderie à disposition. C'est vrai, prévoyez vraiment de rester pour ces moments qui sont des moments forts et importants pour l'Église. Merci, Charlie. Alors, oui, je pense qu'il faut prévoir un pique-nique ici. Ah ouais. Donc, on prévoit un pique-nique parce que le temps sera court entre la fin du culte et puis les 14 heures, l'heure à laquelle ça va commencer. Merci.